J'essaye de vous dire, pour ne pas faire de l'euphorie inutile, que attention, cette équipe de l'Atalanta Bergame.
Évidemment qu'on va faire attention, mais avant le match aller, tout le monde disait regardez l'Atalanta, ça déroule, c'est formidable.
À Marseille, il y a Aubameyang, eux en ont deux, trois qui peuvent claquer au fond.
On s'attendait quand même, excuse-moi, mais avant que la semaine européenne commence, on s'attendait à ce que le PSG gagne à Dortmund et on s'attendait à ce que l'Atalanta gagne à Marseille. Et ben c'est pas ce qui s'est passé. Le PSG a perdu.
Ils ont fait 1-1, les gars, ils n'ont pas perdu. Ils sont venus chercher un point, ils sont venus faire le match nul en déplacement.
Et ils auraient mérité de gagner, même l'OM. Donc,
gagner même.
C'est pour ça qu'il y a des regrets. Mais ça, on dit pas ça. Les Italiens, ils sont venus chercher le match.
Mais ça s'est pas passé comme on l'avait dit.
Oui. Quand Scamacca ouvre la marque, on se dit la soirée démarre très très mal. Et au final, ce qui se passe derrière était assez.
Ah non, mais après, ils ont super bien réagi. Et moi, j'aime beaucoup l'attitude de M. Gasset. Je pense qu'il optimise tous ses joueurs, il donne de l'envie. Là. Mais lui, il est bien conscient aussi que son équipe, elle est crevée. Il le dit d'ailleurs, ils sont cramés, tu es cramé, et là-bas, tu vas vivre l'enfer. Hein,
ils ont trouvé le 8e souffle.
Mais à l'envie.
L'envie d'avoir envie,
plaisir, au bonheur.
On me donne l'envie d'avoir envie.
En tout cas, à Bergame, jeudi soir, puisque ce sera encore une grande soirée à vivre sur RTL. On aura la demi-finale retour face à Dortmund du PSG mardi soir en direct au Parc des Princes. Et jeudi, donc, le match retour à Bergame de l'OM, tout ça à vivre sur RTL. Quasiment 20h, c'est le moment de faire une petite pause pour les informations. On se retrouve après, on refait le match jusqu'à 20h30 et la soirée foot jusqu'à 23h. RTL Foot ce soir avec Eric Silvestro. A tout de suite.
RTL, on refait le match avec Philippe Sanfourche, Vincent Perrault. RTL Petit Matin Week-end. Et demain, à votre avis, qui sera mon invité ?
Bonjour, c'est Eric Serra. Je vous donne rendez-vous sur RTL avec Vincent pour parler de ma dernière composition pour le film Le Salaire de la Peur.
Oui, c'est demain à partir de 4h30 sur RTL. RTL Petit Matin Week-end avec Vincent Perrault.
Articulé, je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Bah oui, mais...
Chacun, découvrez le plus grand choix de Pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toises ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise. Mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
RTL.
Il est 20h. Foot et l'on refait le match. Les informations avec vous, Rémi Jacob. Rebonsoir.
Rebonsoir, Philippe. Bonsoir à tous. 8000 personnes présentes cet après-midi dans les rues de Châteauroux pour rendre un dernier hommage à Matisse. C'est cet adolescent de 15 ans poignardé le week-end dernier par un jeune du même âge. Lors de cette marche blanche, plusieurs prises de parole très fortes se sont succédées, notamment celle de son institutrice.
Je ne veux pas t'oublier. Et je ne veux pas que tu sois mort pour rien. Alors je t'ai promis qu'à chaque fois que je serai en colère contre quelqu'un, je penserai à toi pour apaiser ma colère et trouver des mots de paix.
Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, une fusillade a fait cette nuit un mort et quatre blessés graves. Il s'agit d'un nouveau règlement de compte lié au trafic de drogue, a indiqué le maire de la ville. Autre fusillade cette nuit à Toulouse, cette fois-ci, où un homme est mort et un autre gravement blessé au cours d'un règlement de compte. Et cette question de l'hyperviolence, elle sera notamment au menu du grand jury spécial élection européenne qui réunira demain les 7 principales têtes de liste réunies ensemble pour la toute première fois pour un débat événement à ne pas manquer, et ça sera exceptionnellement, notez-le bien, de midi à 14h sur RTL et Paris Première et à 18h sur LCP. Du football avec la suite de la 32e journée de Ligue 1 et les choses qui se précisent à seulement 2 journées de la fin du championnat. Tout à l'heure, le Havre a fait un grand pas vers le maintien en s'imposant face à Strasbourg, 3-1. De son côté, la lanterne du championnat, Clermont s'est incliné face au dauphin du championnat, Monaco, 4-1 pour les mots. monégasque. Autre rencontre qui a débuté à 19h, Metz face à Rennes et les Messins qui mènent à la mi-temps 2-1. Et puis à 21h, Brest recevra Nantes. Une affiche que vous pourrez évidemment suivre sur notre antenne sur RTL. Ça sera dans RTL Foot à partir de 20h30 avec Eric Silvestro et toute sa bande. Et puis allez, un mot de cyclisme avec le Giro qui s'était lancé cet après-midi dans la banlieue de Turin. 21 étapes prévues à travers toute l'Italie jusqu'à l'arrivée finale le 26 mai prochain à Rome. Un immense favori, c'est le Slovène Tadej Pogacar. Mais une première étape remportée au sprint par l'équatorien Jonathan Narvez. Votre météo avec pour demain de la grisaille et de la pluie sur la moitié nord du pays, des éclaircies au sud le matin, mais attention, des orages sont prévus en seconde partie de journée du sud-ouest au massif central. Du côté des températures, ce sera en légère hausse, 15 à Brest, 18 à Paris, 23 à Lyon et Toulouse et 24 à Montauban. Et puis les courses, eh bien, ça va se passer demain du côté de Longchamp, départ 15h15. Notre spécialiste maison, Dominique Cordier, vous conseille de jouer le 10, le 13, le 2, le 15, le 3, le 8 et le 9. Et l'outsider de RTL, c'est le 15, Saanen. RTL, il est 20h passé de presque 4 minutes et c'est la suite dont on refait le match avec vous, Philippe Sanfourche.
Hey, merci beaucoup. Les informations étaient signées Rémi Jacob.
RTL. On refait le match. Les débats flash.
On refait le match, les débats flash pour la dernière demi-heure de l'émission avec l'arrivée dans ce studio de Karine Galli. Bonsoir Karine.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Avec toujours Stéphane Pauwels, avec toujours Dominique Sévrac et Florian Gazan, alors que le match reprend entre Metz et Rennes. Toujours, oui, tout à fait, toujours 2-1. 2-1 pour les Messins face à Rennes. Évidemment, Dimitri Ramelot est sur place. Dès qu'il se passe quoi que ce soit, on ira faire un tour à Saint-Symphorien et la fin de la rencontre, évidemment, en fil rouge dans RTL Foot tout à l'heure dès 20h30.
Avec Nico Tazé, il marque, mais sur le deuxième but, il donne un caviar. Hein. C'est vraiment l'homme de Metz depuis qu'il est revenu de l'Ajax. C'est incroyable.
Oui. Il a un œil partout, Stéphane Pauwels.
Mais non, mais il donne un caviar, c'est vrai.
C'est formidable. Les débats flash, je vous le disais, on va attaquer tout de suite avec, vous vous souvenez évidemment du concept des débats flash, hein, une question, réponse argumentée d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse en 45 secondes chrono. On passe ensuite au vote pour voir si l'intéressé a réussi à convaincre l'assistance. Et on fait un petit classement à la fin et on voit qui a gagné pour la soirée. À 20h05, premier débat flash de la soirée. Les trophées UNFP, tiens, qui récompenseront le 13 mai prochain les meilleurs joueurs et autres acteurs de Ligue 1, avec notamment les entraîneurs, à choisir cette année entre Luis Enrique, Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, Francaise à Lens, Lucas Elsner du Havre, et Eric Roy, évidemment, pour sa saison formidable à Brest. Pas de Pierre Sage. L'homme qui est en train de redresser l'Olympique Lyonnais et qui va peut-être réussir quelque chose d'historique, hein, puisqu'on rappelle que l'OL était longtemps relégable et même dernier à la trêve.
Et la Coupe de France.
Pas loin d'être européen. Oui. L'oublié, donc, qui a réagi à cet oubli et qui soulève une interrogation, Pierre Sage.
On m'a dit effectivement que c'était relatif au fait que j'étais pas là depuis le début de saison, que je n'ai pas le diplôme. Mais dans tous les cas, je félicite les coachs qui y sont et je souhaite au meilleur de l'emporter. Maintenant, il faudra m'expliquer ce que c'est qu'être le meilleur entraîneur. Parce que quand on élit un entraîneur sans avoir assisté à une de ses séances, alors que le métier entraîneur dit qu'il faut entraîner, et donc on va élire quelqu'un sur un métier dans lequel on ne l'aura jamais vu exercer son métier, ça me questionne.
Pierre Sage soulève-t-il une vraie question ? Karine Galli, vous avez 45 secondes.
Oui, et en plus, je ne pense pas que Pierre Sage soit aigri, c'est pas le genre. Il y a plusieurs problèmes dans ces trophées UNFP, c'est effectivement, ils ne font pas tous le même métier. Luis Enrique ne fait pas le même métier que Gastien. Alors, ils ont le même titre, ils sont entraîneurs tous les deux, l'un du PSG et l'un de Clermont. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose. Il y a des entraîneurs qui sont un petit peu des superviseurs, qui n'animent pas toutes les séances. Il y en a qui le font, il y en a qui délèguent énormément à leurs adjoints. Et tu n'as pas le même matériel et tu n'as pas le même travail. À certains, tu leur apprend des choses, à d'autres c'est du management d'hommes. Et il y a un autre souci bien évidemment, c'est la date d'arrêt des votes. Luc Elsner, je suis ravi pour lui, mais à l'époque, s'il est dans les 5 meilleurs, c'est parce que le Havre n'est absolument pas en difficulté, n'est pas relégable et est quasiment sauvé de Ligue 1. Aujourd'hui, même s'ils ont gagné cet après-midi, rien ne dit que le Havre sera en Ligue 1 la saison prochaine.
Très bien. Donc pour Karine Galli, effectivement, Pierre Sage a bien fait de soulever la question finalement de la légitimité de ses votes. D'ailleurs, Karine apporte même d'autres arguments par rapport à Pierre Sage. Donc quelque part, en fait, c'est les joueurs, on les voit jouer, donc on peut les noter, on peut aisément les jauger. Les entraîneurs, il y a un travail de fond, un peu invisible en fait pour le grand public et même pour les autres entraîneurs qui connaissent le métier et qui font que on ne peut pas les juger et donc les classer. Est-ce que c'est une vraie bonne question? Est-ce que Karine vous a convaincu tour de table, Florent Gazan?
Je vais dire plutôt oui, plutôt oui.
Dominique Sévrac.
Je suis pas d'accord avec Karine, mais elle a raison sur le fond. C'est paradoxal.
Donc oui ou non?
Je donne le point à Karine.
Donc c'est d'ores et déjà
le capitaine.
Triomphe pour Karine. Est-ce que c'est un grand chelem?
Je donne le point à Pierre Sage et à Karine.
Ah ben c'est un carton plein.
Mais j'aimerais entendre les arguments de Dominique parce que je pense que franchement que... il m'a pris en amitié parce qu'il sait que je suis blessé. Alors merci Dominique, oui. Mais j'aimerais les arguments.
Son côté bon samaritain.
C'est un peu si on ramène ça au César par exemple, c'est un peu comme comparer un film avec Danny Boone et un film de Justine Triet. Bon là, elle a eu la Palme d'Or avec Autonomie d'une chute, mais les films de Justine Triet avant, ils faisaient 30 000 entrées, personne n'allait les voir. Et comparer le même cinéma pour la même famille du cinéma, ça n'a rien à voir. On peut pas effectivement comparer Pierre Sage et Luis Enrique. Mais donc c'est le principe des prix, c'est de mélanger les choux et les carottes, c'est de faire un peu n'importe quoi. Donc soit on n'accepte pas les prix et on les renvoie tous, soit on les accepte et on est obligé d'avoir un peu des choux, un peu des carottes, un peu des tomates, un peu des navets et tout ça. Et après, j'ai vu la déclaration de Pierre Sage, il dit il faudrait qu'on juge nos entraînements, mais même les journalistes n'ont pas le droit d'aller assister aux entraînements, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où tous les entraînements sont à huis clos, où tous les clubs ont fermé par paranoïa, parce que attention, un journaliste présent à l'entraînement, il pourrait voir des choses incroyables, il pourrait voir des centres, il pourrait voir des passes en retrait, il pourrait voir une opposition, il pourrait se dire...
Ah, ils font pas que des taureaux, moi je croyais qu'ils faisaient que des taureaux.
Donc, c'est un peu facile aussi de dire qu'on n'assiste pas aux entraînements, on n'en parle jamais. Vous avez remarqué que dans la presse sportive, dans l'équipe, dans les Parisiens, on ne raconte jamais les entraînements parce qu'on n'a pas le droit d'y être.
Non, mais elle n'est pas voilà, que là la question.
Oui, Dominique, c'est pas vous qui votez.
Juste une chose, c'est, voilà, on rappelle que ce sont les entraîneurs, ça se fait au sein de l'UNECATEF, hein, le syndicat.
C'est là où je trouve que Pierre Sage, il est un peu limite, parce que limite, il dit en gros que mes collègues sont des incompétents puisqu'ils sont incapables de savoir ce qui se passe pendant la semaine dans les entraînements. Il n'y a pas quand même il y a pas 1800 façons différentes d'entraîner une équipe de football professionnelle. Voilà.
Ah si, Flo, avec
en tout cas, il tacle les petits copains, il tacle ses congénères.
Oui, ils sont nuls.
Il tacle le principe trophée UNFP, pas ses co.
Bah, il dit comment on peut juger un entraîneur
on aime bien un entraîneur qui optimise un noyau relativement moyen ou qui est malade. Pierre Sage a pris un noyau malade. Et il a fait du très bon boulot sur certes une demi-saison. Et effectivement, c'est plus difficile. Alors, moi, j'aime ce genre de personnage puisque forcément, on peut dire qu'il a fait du très bon travail. Mais effectivement, si on doit le mettre sur la même baseline, sur la même ligne de fond que Enrique, on peut pas comparer puisqu'il a pas le même matériel. Alors, je parle pas d'argent, là. Hein. La même pression, la manière que... Donc, c'est pas comparable. Mais où moi, je trouve que Pierre Sage a raison, c'est que je pense que... Où il se trompe, je pense qu'il faut faire un vrai classement, mais ce genre de petit entraîneur comme Pierre Sage n'est pas toujours, pas petit entraîneur, c'est péjoratif, mais n'est pas toujours respecté. Je pense qu'il n'y a pas un vrai respect de ce genre de coach.
Moi, j'ai pas besoin d'assister aux entraînements pour voir que Éric Roy, ni j'assiste aux entraînements de Lyon, ni j'assiste aux entraînements de Brest, mais tout ce que je vois, c'est que Brest, cette saison, a réalisé un parcours.
Tu sais pourquoi il dit ça?
Fantastique, et même si.
Il faut aller à l'entraînement, je vais t'expliquer pourquoi.
A fait un travail fantastique avec Brest, et pour moi,
Dominique.
Pour moi, déjà,
tu sais comme moi qu'il y a des coachs qui entraînent quasiment plus et les 2-3 adjoints. Moi, je l'ai vécu à l'époque avec Vaïd, il entraînait pas. Pierre Sage, il est en train de te dire que lui, au quotidien, formateur. Voilà, il essaye de dire que son métier. Mais
Stéphane, on regarde les matchs.
Mais moi, j'essaye de défendre
Pierre Sage. Le matériel de Brest, ce qu'a fait Éric Roy, c'est miraculeux.
Oui, mais pour Éric Roy, on est d'accord, mais après, il y a un problème aussi de timing. Je veux dire, je ne comprends pas, alors que c'est en France, on arrête les votes aussitôt.
T'as raison.
Je veux dire, le mec, dès que tu l'appelles le jour J, tu prends son vote et basta. C'est-à-dire que Luc Elsner, et j'aime beaucoup Luc Elsner, expliquez-moi comment il peut être dans les 5.
Karine, bah,
mais Francaise,
sera décidé le 14 juillet.
Il n'y a rien à faire.
Oui, mais c'est une aberration.
Le 14 juillet, tu sauras qui est Ballon d'Or parce que tu sauras qui a gagné l'Euro.
C'est une aberration. Et le Ballon d'Or, on peut imaginer que c'est un peu plus compliqué d'avoir tous les votes. Là, on parle de 18 entraîneurs en France. Et je parle pareil pour les joueurs, etc. Donc, si la personne, elle veut répondre, elle veut jouer le jeu de l'UNFP, elle répond. Si elle veut pas, elle a le droit aussi. Mais c'est pas possible de stopper les votes aussitôt alors qu'il y a des places en Ligue 1, en Ligue des Champions, en Ligue 2 qui se jouent encore maintenant. En fait, c'est aberrant.
Karine a raison. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, Florent. Tu dis, Franck Hayes, il n'y a rien à faire dans le classement.
Qu'est-ce qu'il a fait cette année,
Franck Hayes? Bah, je te dis qu'ils vont jouer quand même encore une fois la Coupe d'Europe enfin, avec une équipe où il a été déforcé, qui a perdu, Seko Fofana, Loïs Openda.
Vous nous vendez vos petits clubs du Nord.
Je vais parler des clubs du Nord.
Ils ont quand même un peu saccagé leur Coupe d'Europe.
Franck, ça a bien sa place. Bah non, il a gagné là en championnat. Il est cinquième au classement.
Il faut une bonne saison en Ligue des Champions. Moi,
Franck Hayes ne peut pas être dans
Fribourg.
Lucas Elsner, mais pas Franck Hayes.
Si Franck Hayes y est, pourquoi Eddy Hütter n'y est pas alors?
Bon, allez, débat flash, ça veut dire rapide. 20h13, on a fait un seul débat flash, donc on va accélérer un peu le mouvement. Deuxième débat flash, c'était une première cet après-midi à l'occasion de la finale de Coupe de France féminine, remportée 1-0 par le PSG face à Fleury. L'arbitre était sonorisé pour pouvoir éventuellement expliquer au public dans le stade les décisions prises après consultation de l'assistance vidéo. Nouveauté qui d'ailleurs sera appliquée, hein, le président de la fédération l'a annoncé officiellement, en Ligue 1 tout au long de la saison prochaine. Donc c'est une sonorisation partielle, hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas entendre le micro, dans le micro tout ce que l'arbitre dit aux joueurs pendant toute la partie, mais en tout cas, quand il y a une décision du VAR, elle sera expliquée et elle sera expliquée dans le stade. Voilà, donc plus de pédagogie pour plus de VAR en gros en France, pendant que dans le même temps, un pays de football important, la Suède, a décidé, a annoncé en tout cas qu'elle allait renoncer purement et simplement à l'utilisation de la VAR dans son championnat à partir des saisons à venir. Donc, il y a vraiment deux axes là totalement différents et on sent que ça crée un vrai débat. La question, elle est très simple. C'est qui est dans le vrai? Qui est dans le sens de l'histoire? Florian Gazan, vous avez 45 secondes.
Malheureusement, le sens de l'histoire, c'est la sonorisation parce que la VAR ne disparaîtra pas. Ça a été validé par la FIFA. Tout ce que la FIFA a mis en place est resté. Les changements de joueurs, les gardiens qui pouvaient plus de passer aux gardiens. Voilà. Donc, de toute façon, la VAR ne disparaîtrait pas. On sait bien qu'un jour, l'arbitrage vidéo sera sponsorisé par une marque qui rapportera beaucoup d'argent à la FIFA. Donc, ça ne disparaîtra pas. Donc, il faut essayer d'améliorer cet outil. C'est un bon outil qui est mal utilisé. Il faut changer les règles de la façon dont on l'utilise. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut faire comme dans certains sports, comme au tennis, ce sont les entraîneurs qui ont le droit de demander la VAR sur certaines actions où ils sont pas sûrs. Il faut aussi peut-être changer qui est dans la camionnette, peut-être mettre d'anciens joueurs, peut-être éviter de se dire que quand un arbitre prend la VAR et qu'il est déjugé, il perd des points. Il faut réformer la façon dont l'outil est utilisé, ça reste un bon outil, donc c'est l'avenir et on reviendra pas en arrière là-dessus. Et la Suède, c'est un pays sur 30 et en plus la Suède c'est particulier parce que en Suède, les clubs sont détenus en majorité par des socios. C'est la règle des 50+1, donc c'est eux qui ont décidé, donc c'est pas complètement pareil.
Oui, bah donc
ça veut dire que les socios connaissent le football.
Plus, ça veut dire que c'est une décision un peu démocratique, donc qui traduit quelque chose. Il y a quand même une tendance aujourd'hui à remettre en question, et que ce soit chez les supporters, chez les entraîneurs, chez les joueurs, c'est quelque chose qui existe. Débat évidemment interminable. C'est pour ça que c'est difficile de faire en 45 secondes. Ça, c'est une évidence. Tour de table. Est-ce que vous sentez le vent tourner ou pas? En gros, c'est ça la question. C'est est-ce que, parce que le discours de dire, c'est de toute façon, la VAR, on est dedans et c'est jusqu'au bout. Effectivement, on l'avait tous ces derniers mois, dernières années. On a le sentiment qu'il y a une légère inflexion. Est-ce que cette inflexion, vous y croyez ou non? Florent Gazan n'y croit pas. Tour de table. Dominique Sévrac.
Je donne mon point à Florian, mais malheureusement, j'aimerais que la VAR disparaisse. Mais je sais que c'est pas possible. Donc je donne mon point à Florian.
Ben, Stéphane Powels.
La même chose que Dominique Sévrac. Je donne mon point à Flo, mais cette VAR, enfin, pour moi, c'est l'anti-foot, quoi. Donc, ça m'agace qu'on arrête des matchs, parce que pour des demi-millimètres, on annule des
matchs. On verra ensuite pour l'argumentaire. Karine Galli.
La même chose que Dominique et Stéphane, nous sommes résignés autour de ce plateau, mais c'est la réalité, malheureusement.
Checker le but, soit par la goal line, soit pour sur l'action éventuellement, où on remonte, ça c'est compliqué, mais je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait une faute énorme d'un Parisien au milieu de terrain, et ça avait été annulé en Ligue des Champions, je crois.
Contre Madrid.
Mm-hmm. Ça c'est normal qu'un but soit vérifié, on va dire, dans les 50 dernières secondes, mais le reste, ça ne m'intéresse pas, la VAR, c'est une perte de temps, c'est la responsabilisation de l'arbitre.
Exact.
C'est plus rien, c'est un autre arbitrage, c'est un autre monde. C'est tout ce qu'avait annoncé Platini, tout ce que Platini avait dit, c'est avéré juste. Donc c'est affreux.
Enfin, Platini était contre la goal line technologie, ça pour le coup
non,
c'est
ça, pas la goal line, non. Ça savoir voilà. si, bah, si, oui. si la mini Yamal a marqué dans le classico espagnol, ça m'intéresse.
Ben voilà.
Bon alors on pose les armes, quoi. C'est terminé. C'est-à-dire que la Suède, finalement, on en fait peu de cas.
Bah, les Suédois aussi,
c'est un signal quand même.
Pour apporter une petite nuance, les Suédois, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont choisi plutôt de mettre l'argent dans le gazon synthétique pour jouer tout l'hiver où il fait froid, plutôt que de mettre dans la VAR qui coûte des sous. Donc c'est aussi une décision économique.
Et en France,
c'est économique, mais il le dit très justement, Philippe Sanfourche, c'est démocratique. Ça veut dire que ils sont comme Dominique Sévrac et comme moi, la VAR, ils l'aiment pas, tout simplement parce que ça enlève la beauté du foot. Ça veut dire qu'à un moment, quand on arrête 10 minutes un match pour voir s'il y a but ou pas but et qu'on annule des buts alors qu'il y a un mec qui a fait un exploit, mais parce qu'il y avait un demi millimètre, ça me gonfle.
Et moi, je suis pas contre l'évolution du foot.
Non, mais non plus, je suis pas contre l'évolution. Mais je pense que la VAR, ou alors on l'adapte.
Tous les matchs sont quasiment enclins à des polémiques d'arbitrage, donc au final, ça n'a pas du tout arrangé les problèmes d'arbitrage. Ça même responsabiliser les arbitres et on est encore plus focalisé sur l'arbitrage. J'ai l'impression que tous les matchs sont perçus sur le prisme de l'arbitrage qui a été bon, pas bon, une faute VAR, une faute pas VAR, etc.
Mais donc, parce que de toute façon, déjà,
tout ce qu'on espérait n'a pas eu lieu.
Mais on dit arbitrage vidéo, c'est assistance vidéo. Donc déjà, on se trompe sur la façon d'utiliser cet outil. Il est mal utilisé, c'est tout. C'est une assistance.
Mais une fois que le verre est dans le fruit, il n'y a pas d'histoire d'assistance.
Le verre est dans le fruit.
C'est-à-dire que la déresponsabilisation de l'arbitre, elle est.
Mais ça les arrange bien.
Elle est inhérente au fait.
Non, mais Philippe, ça les arrange bien.
Pourquoi ils y vont parfois ? Pourquoi ils vont voir l'image ? Pourquoi ils ne vont pas voir l'image ? On ne sait pas, on n'a toujours pas compris. Ça, je ne sais plus quel match là récemment, c'était PSG Lyon. Il y a des moments où ils vont voir l'image et d'autres moments où ils ne vont pas.
Oui, c'est ça, c'est pas cohérent.
On ne comprend pas, on ne sait pas.
Non, puis c'est selon les arbitres. Hier soir, par exemple, l'arbitre à Toulouse-Montpellier, il est allé voir la VAR 3 fois. Bon, à chaque fois qu'il y avait matière A, il se rendrait devant la vidéo, il regardait et il prenait sa décision. Et effectivement, parfois, où tout le monde réclame qu'il y ait une assistance vidéo parce que tu vois les joueurs qui sont extrêmement virulents, donc pour apaiser les choses, tu pourras aller le voir, l'arbitre ne bronche pas et n'essaye pas de désamorcer le problème. Donc,
c'est ce que je dis, c'est que c'est un outil qui est mal utilisé, qui a été mal phagocyté, qui a été mal mis en place. Et en fait,
comment on va faire pour l'améliorer ? Qui va décider à la Fédération française de football ?
On a quand même le sentiment qu'on a fait le tour de la question, que ça fait maintenant des années qu'on est
j'ai pas l'impression, justement.
Je vois pas quelles sont les pistes d'amélioration, si ce n'est des gadgets comme cette sonorisation qui va calmer le jeu deux minutes, mais qui va pas finalement changer le mal qui est profond.
Mais non, ou peut-être la façon de l'utiliser différemment. Quand je vous disais pourquoi est-ce que c'est pas les coachs qui auraient pas le droit d'appeler, je sais pas, 3 fois par match la VAR, comme au tennis. Au tennis, le hockey, c'est les joueurs qui le réclament, et ils ont tort ou ils ont raison.
Et le tout avec une page de publicité.
Voilà.
Et on mange des sandwichs, des burgers pendant ce temps-là, et on envoie des écharpes dans les tribunes.
C'est très American. Ça peut aller très vite.
20h20, les 10 dernières minutes d'On fait le match, 2 derniers débats flash, à tout de suite.
J'adore l'athlétisme, pardon, mais on peut aimer des sports et les regarder.
Mais bien sûr.
Je vais regarder la gymnastique rythmique sportive pour laquelle j'ai une passion. Je vais regarder la gymnastique aux agrès. Et c'est pas parce que je ressemble à rien que je n'aime pas regarder le sport.
Est-ce que tu regardes le lancer du poids ?
Alors j'en avais un dans la main.
Mais je te prie.
Dans quelle direction il irait ?
Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
RTL.
On refait le match. Les débats flash.
Les débats flash, on refait le match avant cela. On va peut-être faire un tout petit détour rapide à Saint-Symphorien parce que c'est toujours en cours entre Metz et Rennes. Dimitri Ramelot, le score n'a pas bougé, 2-1 pour les Messins.
Toujours Philippe, il reste 28 minutes à jouer dans cette partie où Kidja qui fait un match énorme et on a vu 3 beaux buts, Miko Tadze pour le premier, Guiri égalisation et Diallo pour le deuxième du FC Metz sur une passe lumineuse, passe décisive lumineuse de Miko Tadze, encore lui.
Merci beaucoup Dimitri Ramelot, on rappelle qu'effectivement en l'état, après la victoire du Havre et donc cette victoire de Metz qui se dessine, Clermont serait condamné à la descente en Ligue 2, Clermont qui s'est incliné sur la pelouse de Monaco, 4-1. Toutes les réactions à suivre à partir de 20h30
19h30 dans RTL Foot. Troisième débat flash de la soirée. Si vous avez pris l'habitude, et c'est une bonne habitude, d'écouter le podcast dont refait le match, brillamment animé par Florian Gazan du lundi au vendredi. Oh,
avec votre brillance à vous, Philippe.
Voilà, ce produit est devenu une sorte de laboratoire, finalement, expérimental, qui nous permet d'affiner les débats aussi pour l'émission du samedi. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est un débat qui est né sur le podcast et qui a fait rage entre nous, et qui concerne Aurélien Tchouaméni, qui, on le sait, est installé maintenant régulièrement en défense centrale au Real par Carlo Ancelotti. Alors, situation qui était un peu provisoire au début, puis qui semble être amenée à durer. On l'a même vu le faire redescendre pendant la demi-finale face au Bayern pendant la rencontre à ce poste, alors qu'il avait démarré en milieu de terrain. La question est donc simple. Est-ce qu'en sélection, là où la charnière des Bleus est mouvante au gré des méformes ou des blessures, finalement on la connaît pas bien, cette charnière type de l'équipe de France, est-ce que Didier Deschamps n'aurait pas intérêt à essayer Tchouaméni à ce poste? Dominique Sévrac, vous avez 45 secondes.
Didier Deschamps ne le fera pas, et il n'a pas intérêt parce qu'il considère qu'il a sa charnière titulaire au Pamecano Konaté s'ils sont pas blessés évidemment, et que en plus il dépeuplerait son milieu de terrain avec Rabiot et Griezmann. Donc pour ces deux raisons-là, il ne le fera pas. Il ne le fera que si il sent qu'il faut mettre William Saliba, et là, comme il le déteste, il se dira je mets Tchouaméni. Mais sinon, il ne fera jamais ça de descendre son milieu de terrain.
C'est très clair. Il n'y a même pas besoin des 45 secondes. C'est tranché par Dominique Sévrac. Est-ce que vous êtes tenté ou non par cette vision d'Aurélien Tchouaméni en charnière centrale des Bleus? Tour de table, Stéphane Pouels.
Mon point, Dominique, je pense, pour les raisons qu'il dit, surtout pour ne pas dépeupler son milieu de terrain. Il va pas changer pour pas déstabiliser. Je pense pas que Deschamps fera ça. Et donc je donne mon
choix. Mais c'était pas de me dire ce que Deschamps va faire, parce que moi je sais ce qu'il va faire. Je le connais par cœur et Dominique a parfaitement raison.
Mais Dominique a pas répondu à la question.
La question de savoir si l'intérêt de l'équipe de France, c'est pas de l'essayer.
Non, puisque
un mois et demi de la compétition.
Je vais pas vendre du rêve aux gens.
Ah ouais, c'est ça.
Vous êtes pragmatique.
Et il y a deux mois une compétition, on va donc faire un test. On va se prendre.
On pose des questions. Bah non. Karine Galli.
Je suis d'accord avec Dominique. Pour William Saliba, il peut ne pas le prendre. Hein. Personne ne l'oblige à le prendre. Au lieu de mettre des quiches en conférence de presse, qu'il arrête de le prendre et ça sera plus simple pour tout le monde. Hein.
Bon. Donc on oublie, disons, ça fait pas tant débat que ça finalement.
Mais non, mais il a pas répondu à la question, Dominique. On demande, la question c'est pas de savoir si Deschamps allait le faire ou pas, c'est la question c'est est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il devrait.
Et moi je dis non aussi.
Et moi je trouve que Tchouaméni, il y a un grand avenir en défense centrale. Voilà, donc je suis pas d'accord avec
Dominique. Et donc tu mets quoi, Camavinga au milieu à la place?
Mais t'as Camavinga, t'as Zaire Emery qui est censé.
Tu fais deux changements. C'est-à-dire tu descends Tchouaméni et tu refais un autre changement au milieu de terrain. Et Pavard qui attend depuis des années de jouer en défense centrale, tu lui dis au moment où il joue plus arrière droit au Bayern mais qui joue en défense centrale à l'Inter, tu lui dis ah bah de toute façon finalement je descends au milieu de terrain. Mais Pavard, il te prend au mur, il te colle.
Enfin, c'est que Pavard. Hein. Et, excuse-moi, mais la charnière centrale aujourd'hui en bleu, elle a donné aucune garantie. On sait même pas qu'elle. On dit Upamecano Konaté, mais enfin c'est pas une évidence biblique que ce soit la charnière, charnière.
C'est ce qu'il a envie de faire.
Ouais, enfin c'est pas Blanc de Sailly, tu vois, ils assurent pas. Non mais il y a pas de garantie. Upamecano, il rate un match sur deux.
Non mais Flo, blessé sur ça. En plus, t'as quand même une chance sur deux d'en avoir au moins un blessé. Je veux dire, la réalité, c'est que Konaté, il fait pas une saison pleine parce qu'il est très souvent blessé, il a raté beaucoup de rassemblements avec les Bleus, et Upamecano, qui est titulaire effectivement avec Didier Deschamps, il a vécu une saison compliquée avec le Bayern et c'est pas terminé. Donc moi je trouve que cette
charnière
qui est soi-disant installée, c'est comme pour Maignan, tu vois, tu peux te préparer au fait qu'il y en a.
Oui, c'est ça, ça veut dire qu'il pourrait
lancer Upamecano à la Coupe du Monde alors qu'il sortait déjà d'une saison compliquée avec le Bayern et avec l'équipe de France. Donc quand il a trouvé quelque chose, même Benjamin Pavard et Lucas Hernandez avant sa blessure, même Benjamin Pavard et Lucas Hernandez devaient attendre leur tour parce qu'il y avait Upamecano et Konaté dans son esprit. Alors peut-être que la blessure de Lucas Hernandez qui pourra pas faire l'Euro malheureusement, oui, ça peut donner une petite chance à votre hypothèse de Tchouaméni en défense centrale.
De toute façon Deschamps il est pas fou, s'il est en difficulté il va le faire.
Oui, il faut qu'on aille vite et on a un dernier sujet qui est intéressant aussi, le quatrième débat flash de la soirée. Concerne Will Steele, et le Stade de Reims, puisque on le sait, c'est fini, hein, la décision a effet immédiat de rupture entre les deux parties. Alors que l'entraîneur belge était en contrat jusqu'en fin de saison prochaine, Reims, qui on le sait a longtemps joué l'Europe cette saison et puis qui a dégringolé, hein, la chute vertigineuse depuis la fin janvier, 11e place de Ligue 1, qui est le principal responsable de cette dégringolade, l'entraîneur ultra communicant ou le club et sa gestion d'effectifs parfois un petit peu aventureux. Stéphane Pauwels, vous avez 45 secondes.
Alors je vais vous étonner, vous avez pensé que je vais défendre Wilstil parce qu'il a un passeport belge aussi. Eh bien non. Non, je pense que ça devait arriver. Ça devait arriver, c'est-à-dire qu'à un moment, après cette belle série d'une vingtaine de matchs, effectivement, il a bien coaché, il a fait du bon boulot, il va falloir qu'il reprouve ailleurs maintenant. Mais il est devenu le meilleur client de Prime Video, le meilleur client des médias. Et il y a un moment, même quand il perdait, il s'oubliait. C'est-à-dire que quand je dis qu'il s'oubliait, il pouvait critiquer un de ses joueurs, il partait en saucisse. Ça énerve les dirigeants. Et puis, on va pas oublier aussi qu'en janvier, il avait été voir sa fiancée en Angleterre, mais qui avait été discuté avec Sunderland. Donc, je pense que ça énerve les dirigeants. Et je pense que c'est assez bizarre qu'il part maintenant. Mais non, ils l'ont fait propre. Tout le temps, mais ils l'ont fait parce que de toute façon la corde elle aurait cassé à un moment ou à un autre. Je pense que Wilstil à un moment il doit se reconcentrer sur le football.
Donc voilà, c'était inéluctable pour Stéphane Pauwels et c'est quand même globalement de la faute de Wilstil, à la fois cette dégringolade sportive et cette rupture avant la fin du contrat. On valide ou pas,
Karine? Totalement.
Florent Gazan.
Je donne mon point à Stéphane.
Dominique Sévrac.
Écoutez, c'est l'école des fans, j'ai trouvé ça brillant.
c'est bien la première fois que
j'ai trouvé. C'est vrai que tout le monde a fait 3-3. Non, mais moi,
une forme d'unanimité.
J'ai été surpris parce que j'ai regardé quand est-ce qu'il est arrivé. Et ben, il s'est tellement passé de choses que je pensais que c'était beaucoup plus long que ça, en fait, son mandat. Ça n'a même pas été 2 ans, ce qui n'est pas long. Mais au final, il l'a dit, Stéphane, il y a eu beaucoup trop de soubresauts. Il y a eu des conférences de presse organisées pour désamorcer le je veux rentrer dans mon pays parce que j'ai jamais travaillé en Angleterre. Le mec qui te dit je vise plus haut, les côtés je suis le bon client et donc une fois je tacle l'adversaire, une fois je tacle mes joueurs, une fois je tacle le machin, mais finalement je suis jamais responsable.
Un peu boulard,
je trouve qu'il s'est un petit peu perdu.
Boulard, ouais. Mais le boulard
coupé. On a un peu surfé sur ces 19 matchs.
Il y a un moment, on disait, il y a Didier Digard et il y a Wilstil.
Ouais,
on a l'impression qu'il y en a un qui allait prendre le PSG et l'autre l'OM, quoi.
Vous ne le voyez pas, mais au niveau des médias en France, c'est ce que disait Karine et ce que je disais aussi en préambule. Mais en Belgique, il vient toutes les semaines dans des télés en Belgique, donner des leçons de football à tout le monde, quoi. Mais t'es coach de Reims, mec. À un moment, je dois prendre les diables et les diables jouent comme si.
Mais c'est un bon client, on en a besoin.
Ah bah ouais, bah ça ouais. Après la vidéo, ils vont pleurer, ils vont plus la voir.
Bon, je vous propose d'accueillir.
Ils ont pleuré après vidéo, alors.
Eric Silvestro, parce que il vend debout et on a fait des trucs sur Pierre Sage et l'UNFP, mais. Le vrai scandale.
C'est pas qu'on n'aime pas les jeux d'entraînement, on n'aime pas les
Eric, le vrai scandale, c'est l'absence d'Adi Hütter.
Adi Hütter va être deuxième du championnat pour sa première saison en France, avec une tonne de blessés, et il est même pas nommé.
Et Jean-Louis Gasset, il a gagné la Coupe d'Europe.
Et Franck Kays, il doit pas être nommé non plus.
Bah non, Franck Kays, il a des copains.
Bon, RTL Foot, la fiche du soir.
Reste Nantes. Avec Metz qui est en train de gagner, ça met la pression.
Oh là là là, c'est chaud, hein.
Parfait, non? Eh ben, on vous retrouve dans un instant avec toute l'équipe d'RTL Foot jusqu'à 23h. On refait le match, le podcast tous les jours et l'émission samedi prochain, 19h. Ciao.
RTL. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL.
Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Le dimanche soir, à partir de 23h sur RTL, l'antenne vous appartient. Rencontres, sexualité, manque de communication et conflits au sein du couple. Je suis à votre écoute pour échanger avec vous et vous proposer des solutions. Alors si vous ressentez le besoin de vous confier, un seul numéro, le 09 69 39 10 11.
Prix d'un appel local.
À demain, 23h sur RTL.
Parlons-nous.
RTL Foot,
c'est jusqu'à 23h.
Présenté par Eric Silvestro.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, de prendre la suite des camarades dont refait le match, qui était chaud bouillant depuis 19h. Je peux vous dire que le samedi soir, à chaque fois qu'on s'assoit dans le studio, on sent qu'il y a eu de la passion, de l'énergie. Les sièges, les fauteuils sur lesquels nous sommes assis confortablement d'ailleurs dans ce studio sont, chauds. On sent que ça transpire pour débattre dans Refait le match. On est bien là avec vous jusqu'à 23h pour vous faire vivre cette suite de la 32e journée de Ligue 1 avec la fin de Metz, Rennes et Brest-Nantes. Et nous allons tout de suite à Metz, Dimitri Ablo, parce qu'il y a un pénalty pour Rennes.
Il reste 18 minutes à jouer, 2-1 pour le FC Metz. Le ballon est posé sur le point de pénalty. Peut-être la balle d'égalisation à 2-2 pour le stade rennais. Oukidja est sur sa ligne. L'arbitre vient de siffler, tout est prêt. Allez mon garçon, on t'attend. Vas-y, frappe-le. C'est parti, la course, c'est prêt à contre-pied de lui partout entre le FC Metz et le stade rennais. 17 minutes encore à jouer.
Ouais, et Metz qui avait eu la balle du 3-1 juste auparavant avec Diallo qui avait trompé Steve Mandanda, mais Théâtre avait sorti ce ballon de la tête sous la barre transversale. Et là, on assiste à un début de bagarre. Qu'est-ce qui s'est passé, Dimitri ? Tant pis pour le sommaire de l'émission, mais là, c'est très chaud sur la pelouse.
Oui, effectivement, là, il y a un attroupement avec beaucoup de joueurs.
Oui, c'est Théâtre.
C'est ça, je crois que c'est Théâtre qui est au sol. L'arbitre demande à tout le monde de s'écarter. Donc, il y a une altercation immédiatement après ce pénalty transformé pour le Stade Rennais qui porte le score à 2-0. Il reste 16 minutes à jouer. C'est un petit peu confus. Et là, il y a des projectiles qui tombent des tribunes. C'est pas terrible non plus.
Oui, c'est pas très
tendu, hein, parce que c'est un match à enjeu, hein, Eric. Surtout pour le Football Club de Metz. Voilà, c'est en train de se calmer. Théâtre toujours au sol. En revanche, les joueurs de Metz se sont écartés et on va voir exactement quelle va être la décision de l'arbitre. On revient
sur si Metz qui sortait de la position de barragiste en cas de succès. Là, l'égalisation.
Et qui enfonçait clairement en Ligue 2, surtout.
Exactement, hein. Et qui envoyait directement clairement en Ligue 2. Mais bon, je pense que les Messins, ils pensent plutôt à eux avant de penser à Clermont.
C'est sûr.
Donc, ils pensaient surtout à rejoindre Nantes au classement et même passer devant la différence de but. On va y revenir très longuement, évidemment.
Oui. Mais après, bon, c'est le cas classique, entre guillemets, c'est que les Messins, ils veulent récupérer très vite le ballon pour essayer d'aller chercher le 3-2. Et là, on a vu Lamine Camara et Théâtre qui se sont chauffés. Il y a eu effectivement un petit accrochage et Théâtre reste au sol. À voir si la VAR va pas être appelée, parce qu'effectivement, Lamine Camara, il a
dès qu'il y a un geste d'humeur, ça peut être un carton rouge. On reste branché avec toi, ouais. Dimitri.
Mais surtout que les Messins étaient très, très énervés que ce pénalty soit effectivement accordé. Il y a eu un petit flottement, ils n'y croyaient pas.
Rouge,
parce que
le carton rouge.
Franchement, RL, s'il prend rouge, c'est scandaleux.
Mais c'est pas RL en plus qui a le ballon et qui s'embrouille.
Non, mais parce que dans un second temps, c'est lui qui arrive derrière, qui le pousse, qui le chope un peu haut.
Attention, le carton jaune d'un côté, jaune de l'autre.
Oui, voilà, RL.
Et ouais, c'est pour RL. Carton jaune,
un jaune, c'est bien.
Il n'y a pas de rouge.
C'est plutôt philosophe. Un quart d'heure encore à jouer, 2-2.
Eh bien, l'émission démarre sur très très gros rythme. On va quand même saluer Philippe Audouin qui sera notre commentateur du soir pour l'intégrale de Brest-Nantes. Beaucoup d'enjeux là aussi pour les Brestois, troisième, qui ont vu Monaco gagner contre Clermont 4-1 cet après-midi et qui cherchent à maintenir leur place sur le podium de la Ligue 1. Et Nantes, eh ben, même si Metz là a été rejoint par Rennes, qui est toujours sur la menace. Bonsoir mon cher Philippe.
Salut Eric, effectivement match à enjeu pour Brest. Alors c'est pas tant Monaco pour Brest qui est important, c'est surtout Lille qui est juste
mais
derrière.
Mais Lille ne jouera que lundi.
Évidemment, mais la troisième place, elle est très importante parce que directement qualificative pour la Ligue des Champions, alors que la quatrième imposera deux tours préliminaires au mois d'août. C'est pas du tout la même chose. Donc enjeu pour Brest pour garder sa place sur le podium et enjeu pour Nantes. Attention, ça peut être un samedi noir pour Nantes si Metz venait à gagner alors que le Havre a gagné cet après-midi.
Eh oui, mais Brest qui était quand même revenu à 2 points de Monaco qui avait perdu à Lyon et Brest avait gagné à Rennes. Donc la deuxième place était encore accessible. C'est vrai que la victoire de Monaco complique un petit peu l'affaire des Brestois. Ce sera Lille-Lyon d'ailleurs lundi. Vous savez que cette journée est un peu découpée avec Nice-PSG et Reims-Marseille qui auront lieu le mercredi 15 mai en raison évidemment des deux matchs de Coupe d'Europe, les deux demi-finales retour du PSG et de Marseille. Voilà, le décor est planté. On va aussi donner avec Xavier Domergue. Normalement, c'est avec un petit thème musical, vous savez, le sommaire. Mais là, il s'est passé tellement de choses qu'on est rentré directement dans l'émission. C'est pas pour nous déplaire, ça veut dire qu'il se passe plein de choses en direct. Xavier, on parle de la Ligue 2 aussi. C'est très, très important. Auxerre a fait un très, très grand pas vers la Ligue 1.
Et Auxerre aurait même pu, peut-être, en cas de faux pas de la S Saint-Etienne, dès ce soir, être assuré effectivement de terminer champion, surtout, et de retrouver notre championnat de France de Ligue 1. Il faudra patienter, vraisemblablement, puisque pour le moment, Saint-Etienne est en train de s'imposer 2-1 sur la pelouse de Guingamp, grâce notamment à un but de Mathieu Cafaro, l'ancien Toulousain.
Voilà, on va donner tous les autres résultats aussi peut-être en cours. Il y a beaucoup de gens qui suivent la Ligue 2 sur l'antenne de RT.
Alors en Ligue 2, il y en a deux. Hein. Simplement, aujourd'hui, il y a Auxerre qui s'est imposé 2-0 face au Paris FC, on vient de l'évoquer.
Oui, il y a le National, pardon.
Saint-Etienne qui est en train de mener à 10 minutes du terme, allez, 11 minutes du terme pour être précis, 2-1 sur la pelouse du Roudou.
Oh, il se passe tellement de choses en fin de saison qu'on perd notre latin. Je vous donne le menu, évidemment. On va aller à Metz pour vivre la fin de match tendue. Il reste un quart d'heure entre Metz et Rennes, 2-2. On va découvrir les compos des équipes de Brest et de Nantes avec Philippe Audouin. Nous allons parier évidemment sur cette rencontre et puis nous reviendrons également sur les deux matchs de l'après-midi. Le Havre, c'est un gros ouf de soulagement qui a confirmé son nul au Parc en battant Strasbourg 3-1 et qui s'est donné un peu d'air provisoirement au classement. Et puis Monaco qui a fait un grand pas vers la Ligue des Champions en battant Clermont 4-1. Monaco qui est assuré au minimum de terminer dans le top 4 et donc au pire de disputer le barrage, le tour préliminaire de Ligue des Champions.
Oui, mais il ne faut surtout pas qu'ils soient quatrième.
Surtout pas, parce que ça leur a porté plutôt pour les années présentes.
Et puis voilà, en plus,
ils sont quand même bien partis pour être dans les trois premiers.
Non, mais ils seront deuxième. C'est une incidence sur le mercato aussi, bien de toute façon, cette place qui est un petit peu bâtarde.
Mais je sais pourquoi tu t'attendais à d'autres résultats, parce que tu voulais évoquer le 5-1 de Dortmund face à Augsbourg.
Aussi, voilà. Qui malgré une
régalade, avec tous les joueurs de champ qui avaient joué contre Paris, qui étaient au repos.
Ouais.
Enfin, qui n'étaient pas au coup d'envoi en tout cas.
Ils pourraient être sur un pied d'égalité avec les Parisiens, ils ont quand même gagné. Le Bayern lui a perdu par contre 3-1 à Stuttgart. Ouais.
Malgré un but d'Harry Kane, effectivement, ils ont perdu 3-1 à Stuttgart. Et Dortmund, 5-1, doublé de Moukoko et un but de Marco Reus. Bien sûr, mais il faut l'évoquer. On peut pas... Bon, c'est le week-end de Marco Reus, un petit peu là. Bah,
oui. Alors que le Real lui a gagné 3-0 tranquillement.
Oui, avec un but de Brahim Diaz, si vous ne l'avez pas vu. Allez-y, parce qu'il met une frappe pied droit qui est juste fantastique.
Et Bellingham, lui, joue, hein, même s'il y a un match de Ligue des Champions à venir, il n'y a pas de souci.
Bellingham, il joue, il marque. Moi, il y a des choses qui m'énervent. Je ne supporte plus entendre cette petite musique depuis plusieurs semaines, parce que c'est ainsi, j'adore, hein, Spencer, hein, j'adore ton choix musical, mais la petite musique de dire Bellingham, c'est plus ce que c'était, c'est moins bien qu'en début de saison. Mais en fait, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que Bellingham marque 30 ou 35 buts dans la saison. C'est pas son rôle premier de marquer des buts à chaque journée. Il nous a mal habitués en début de saison, mais Bellingham, c'est un joueur qui a du volume, qui a un immense rayonnement, et qui marque ou pas, il est précieux et toujours au rendez-vous.
Sa saison, elle est magnifique. Il arrive au Real Madrid, c'est une année d'adaptation normalement. Il est titulaire, il est décisif, il fait briller ses coéquipiers. Enfin, tu espères quoi de plus?
Mais tu sais comment sont les gens? Les gens s'en foutent. C'est comment sont les gens? C'est-à-dire que Bellingham, il s'attend à ce qu'il mette doublé tous les week-ends, mais ça n'arrivera pas.
Parce qu'il les a mal habitués en début de saison.
Mais bon.
20h38, on va aller d'abord à Metz, parce qu'il y a un très bon coup franc pour Rennes, et ensuite on va découvrir les compos de Brest-Nantes avec Philippe Audouin. Il pleut énormément à Saint-Symphorien, de partout, il reste 10 minutes.
Dimitri.
Ouais, il reste 11 minutes même.
Pardon, excuse-moi, tu as raison d'être précis.
Alors, coup franc,
il reste 10 minutes et 48 secondes.
C'est ça. Le coup franc est 2 mètres derrière la ligne limite de la surface de réparation, les 16,50 m, un tout petit peu excentré.
Donc, autrement dit, un pénalty pour Bourigeaud.
Quand on regarde les buts de Oukidja, qui a fait un énorme match, énormément de parades ce soir. On reparlera peut-être de Mandanda, hein, qui n'a pas eu la même qualité de jeu que son confrère ce soir. Il va falloir peut-être le frapper quand même. En même temps, il est important, il prend son temps. Le mur est à 9 mètres, ils sont 5 ou 6, c'est parti, c'est frappé, c'est dans le mur, peut-être le deuxième ballon, peut-être le troisième ballon, c'est bon, ça va en corner. 10 minutes encore à jouer, 2 buts partout.
Quel arrêt, Dimitri, quel arrêt.
Ah non, mais c'est sa soirée, hein.
Parce que la demi-volée, c'est pas le premier. La demi-volée, elle
est partie. Il en est déjà à 4 ou 5, Oukidja, ce soir. Il a été très, très bon. Ils auraient pu en prendre plus, largement plus, les Messins. Et il fait son match, quand même, effectivement.
Attention, parce que.
Oukidja corner à suivre pour aller les Rennais.
Dimitri, je te coupe, mais Bourigeaud demande un penalty. Il est venu se rapprocher de M. Buquet parce que le bras est un peu écarté, quand même.
Mais c'est fini. C'est terminé, il n'y a plus de débat, le corner va être frappé, c'est parti, au deuxième poteau, une tête et c'est pour Oukidja, sans trop de problèmes. 10 minutes, 9 minutes et 20 secondes encore à jouer, et encore une fois une altercation sur un renvoi du ballon, là il va quand même falloir se calmer. Parce qu'il reste 9 minutes plus le temps additionnel.
Ah là, c'est Wu qui est venu. C'est Ildirim qui s'est positionné devant Oukidja, qui voulait dégager rapidement. Déjà,
il allait dégager, exactement.
Je ne sais pas s'il fait exprès.
Oukidja ? Non, mais Oukidja, il fait exprès. Et bien sûr, il voit très bien qu'il est devant lui. Il peut pas dégager rapidement. Il fait exprès pour qu'il prenne un jeune. En fait.
Non, mais oui, à quoi ça sert ?
On vient de revoir le ralenti, c'est totalement volontaire.
Bah oui, parce que qu'ils disent pas qu'ils ne le voient pas passer devant, je veux dire, il sait très bien qu'il va être contré.
Ah, parce que Dirim, le pauvre, il se demande ce qui, bah ce qui oui, lui il arrive, pas, il ne comprend pas ce qui lui arrive. 81e minute, donc 2-2 entre Metz et Rennes, c'est important parce qu'au classement, Rennes compte, Metz compterait 30 points, 4 de plus que Lorient, mais ce ne serait pas suffisant évidemment pour aller titiller Nantes, ce match nul concédé éventuellement au stade Rennais. Pour l'instant, il reste encore 8 minutes.
On évoquera Miko Tadze tout à l'heure, hein, mais il fait, quand, ah ouais. il fait quand même un match.
Un but, une passe D.
Et il bat une stat ce soir, et je vous la donnerai tout à l'heure.
Bon bah allez-y,
cinquième
bah
match consécutif où il marque un but.
Ah voilà, tout à fait. Ouais.
Mais je crois que c'est même 9 ça... buts depuis qu'il est revenu en janvier. Et
il a pas marqué tout de suite.
Et il a apporté plus de 15 points à son équipe.
Moi, je regarde,
un but marqué par sur les 5 derniers matchs, ouais. À chaque match, ça date de 85, Jules Bocandé.
Ouais, c'est ça, Bocandé.
Imagine. C'est incroyable. Mais par contre, Rennes, ok, bon là, ils sont en train d'arracher le match nul, mais.
Et il a fait une passe D aussi, hein, pardon, effectivement.
C'est catastrophique, Rennes.
Naufrage.
9e avec tout ce qu'ils ont investi et leur point faible qui était la défense l'an dernier, ils l'ont absolument pas réglé. Je trouve ça dingue.
Je regardais quelque chose. Tu connais le bilan là de sans compter ce match-là. Hein. Avant ce match-là, le bilan de Rennes 11 victoires, 9 nuls, 11 défaites.
Ouais.
11 défaites. C'est-à-dire qu'ils sont à l'équilibre, ils ont autant gagné que perdu cette saison.
C'est cata. Et 43 buts encaissés. Et là, on peut rajouter donc effectivement les deux. On en est. Donc
ah ça, les buts encaissés, on en parlera tout à l'heure. Monaco, on a encaissé 42. Ils sont deuxième du championnat. Donc.
Oui, non, mais parce qu'ils marquent beaucoup.
Non, d'accord, mais
de Rennes. Et je suis désolé, malheureusement, Monaco a quand même des.
Bon, Rennes, ça marque pas. Ah non, pas tant que ça.
Des problèmes défensifs et ils ont réglé le problème du gardien. À Rennes, les problèmes défensifs, ils les ont jamais réglés. Et l'an dernier, ils existaient déjà. Ces problèmes
ils ont plutôt un bon gardien qui s'est quand même trompé, même si le but de Miko Tadze est très beau, le premier. Oui. Mandanda s'est trompé dans sa fausse sortie.
Entre
sur les deux buts,
celui
hein.
que vous aviez en début de saison, et j'ai déjà oublié son nom.
Philippe Keun.
Oui, Philippe Keun. Et celui dont je ne peux pas dire son nom, c'est trop compliqué.
Mais dites-le simplement, parce qu'on veut dire Majeski absolument. Mais...
C'est quand même mieux.
Oui, c'est mieux pour l'instant, voilà. C'est sûr.
Mais après, vous n'avez pas pris le top niveau.
Et de partout, entre Metz et Rennes, 83e. Direction Brest pour découvrir les compos de Brest-Nantes avec Philippe Audouin, qui, je le sais, piaffe d'impatience. Il pleut à Metz, est-ce qu'il pleut à Brest?
Ça m'a amusé quand Dimitri a dit, ou quand tu as dit qu'il pleuvait à Metz, parce qu'ici, eh bien, c'est la légende bretonne qui est respectée. Il fait beau plusieurs fois dans la journée en Bretagne. Et la pluie a cessé. La pluie a cessé. Alors qu'il n'a cessé de pleuvoir quasiment depuis ce matin. Il y avait un petit raid de lumière tout à l'heure en fin d'après-midi. Puis voilà, la pluie qui disparaît à nouveau. Donc il fait meilleur ici, moins humide qu'à Metz, aussi bizarre que ça puisse paraître.
Alors raconte-nous et détaille-nous surtout les compos des deux équipes.
Parce que là, il y a des surprises à Nantes. Hein. Il y a zéro surprise à Brest. Il y en a 5 à Nantes, 5 changements, et on va commencer par là, 5 changements par rapport à l'équipe qui était déjà à l'extérieur il y a 8 jours à Montpellier et qui a ramené le point du nul. Franchement, on ne s'y attendait pas, mais ça va s'expliquer, je vous en parlerai tout à l'heure. On va commencer par la défense, avec évidemment Alban Lafont dans le but, là-dessus pas de surprise, mais charnière à 3 avec Palois, Castelletto, Schemmert, sur les côtés Duverne qui est pas du tout un latéral offensif, donc un vrai défenseur, Coco qui lui est plus offensif. Le milieu de terrain récupérateur composé de Sissoko et Moutou Sami, ça s'explique par que Chirivella avait un petit problème physique en début de semaine. Et puis seulement 3 offensifs, Traoré, Ablin et Kadewere, Mohamed est sur le banc.
Oh là, c'est vrai que c'est une drôle de compo choisie par Antoine Camboiré. On va essayer de.
Mostafa Mohamed sur le banc, moi je trouve ça.
Ah ouais, parce qu'en plus c'est vraiment un garçon qui harcèle les défenses, qui se donne. Alors il marque peut-être un peu moins ces derniers temps, mais quand
il
même.
Est toujours précieux, effectivement. Bah, ouais, là, tu dois aller faire un résultat à Brest. Quand tu as un Mostafa Mohamed dans ton équipe par rapport à l'effectif nantais, moi je préfère l'avoir sur la.
J'avoue que je suis étonné.
Je suis complètement d'accord avec vous. Après, Kadewere revient, il est.
Kadewere, il t'a garanti quoi?
Non, mais il y a une vraie concurrence entre les deux. Je pense qu'il cherche.
Mais pour moi, il n'y a pas photo.
Pour moi, elle est tuée, la concurrence directe.
Au sein du club, il y a une concurrence et je pense qu'il cherche peut-être davantage la vitesse. Il essaie d'allier un petit peu les profils. Voilà. C'est-à-dire que Ablin et Traoré ont des profils bien différents de celui de Kadewere. Et je pense que. Je sais pas, Kadewere, il tente le coup. Il cherche plus de vitesse dans la profondeur pour venir gêner en contre, je pense.
Voilà, je vais vous apporter. Je vais apporter de l'eau au moulin de Xavier. Quand on voit cette compo, défense à 5, c'est là le principal changement. Évidemment, Mohamed, c'est une surprise, mais le principal changement, c'est l'animation globale. Il y a 3 défenseurs centraux parce que Comboiré, il l'avait annoncé cette semaine, Brest est très fort dans le jeu aérien. Il faut être à la réception des centres. Donc, il a renforcé sa charnière.
Oui, la défense
charnière.
À 3 me semble logique. Ça, donc, pour le coup, avec Mounier, avec tout ça, ça paraît logique.
Donc, avec un bloc défensif costaud qui va attendre Brest, Nantes va contrer. Et pour contrer, il faut de la vitesse.
Okay,
la vitesse, c'est plutôt Kadewere, plutôt Traoré que Mohamed. Donc, ça peut s'expliquer. Comme ça et Ablin qui a vraiment rendu des services sur le côté gauche. Faut pas oublier qu'à l'origine c'est un attaquant axial, donc
mettre Abline dans l'axe.
C'est lui qui va jouer la vitesse, oui.
Alors que c'est lui qui marque des buts pour Nantes depuis quelques matchs, c'est pas incohérent.
Et t'as pris 49 buts depuis le début de la saison. Donc t'as aussi besoin de sécuriser un peu l'aspect défensif contre une équipe qui produit l'un des plus beaux jeux de notre championnat et qui est troisième attaque. Donc,
Donne-nous quand même la compo de Brest pour la confirmer, même si maintenant on commence à la connaître. Parce qu'il y a une équipe type qui s'est dégagée, si elle a légèrement évolué ces derniers temps avec Satriano et Mounier. Les deux sont là, les deux alignés ensemble.
Exactement. C'est-à-dire que Éric Roy revient quand même à l'équipe qui a le mieux fonctionné dans la première moitié de saison.
C'est le Doiron qui paye un peu les pots.
Exactement.
C'est le Doiron qui paye un peu.
Exactement. Et puis il avait également apporté quelques retouches en milieu de terrain avec Madi Camara qui a fait un petit passage sur le banc mais qui a retrouvé sa place de titulaire désormais. Donc on retrouve Bizotte dans le but. En charnière, Brassier et Chardonnay. Locaux à gauche de la défense, Lala à droite. Le milieu à 3 dont on parlait à l'instant, Madi Camara, Lesmelou évidemment inamovible et Magnetti. Et puis le trio offensif, Satriano, Mounier et Del Castillo. Del Castillo, meilleur buteur, meilleur passeur de l'équipe.
Voilà pour le décor qui est planté. Nous allons parier sur cette rencontre juste avant les paris. Petit détour par Metz, Metz-Rennes, toujours 2 buts partout. Dimitri Amelot n'est pas intervenu. Dimitri, il n'y a pas eu de grosse occasion?
Non, pas rien de spécial à signaler. Reste 2 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire de cette partie. 2 buts partout, effectivement, entre les deux équipes. On fait tourner un petit peu du côté du FC Metz avec des changements.
Eh bien voilà, très bien. Tu interviens évidemment s'il se passe quelque chose. Parions sur ce Brest-Nantes qui débute dans 13 minutes exactement.
Maintenant, 100% prono avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Brest favori évidemment de cette réception nantaise. Francis Leblay, 1,66 la victoire de Brest, 10 euros de misé, 16,60 de gagné, 3,60 le match nul, 10 euros de misé, 36 euros de gagné et 5,30 la victoire nantaise, 10 euros de misé, 53 euros de gagné. On commence par Karine.
Alors je vous propose une cote à 9 avec Brest qui gagne, qui continue sur sa belle lancée. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Équipe qui marque le premier but, le Stade Brestois. À la mi-temps, je vois également Brest mener au score et buteur multichance. J'ai pris deux joueurs d'Éric Roy, soit Steve Mounier qui a déjà marqué 6 buts en Ligue 1, soit Jérémy Le Doiron.
En sortie de banc.
Voilà.
Pourquoi pas. Ça fait qu'une cote à 9 tout ça.
Bah oui, parce
Brest
que Brest
est favori. Très favori de ce match. Oui, tout à fait. Oui, Xavier. Oui.
J'ai mis Brest aussi, mais j'ai une cote de 50.
Quel homme!
Ah oui, mais il y a des buteurs sûrs. Ça veut dire qu'il y a des buteurs.
C'est sûr.
Ça veut dire qu'il y a des buteurs.
Au moins deux buteurs sûrs.
Je les ai pas mis hier, j'étais
et peut-être un gros score ou un score exact.
Oui, j'ai pas mis de buteurs sûrs hier, donc j'étais un peu
d'accord.
Énervé.
Allez, on y va.
Donc, résultat Brest. Les deux équipes marquent, c'est un grand oui. Résultat à la mi-temps, match nul. Et buteur sûr de numéro 9, qui joue dans un rôle un peu différent ce soir, Mathis Abline et Martin Satriano. Ça nous fait une cote de 50.
Les deux doivent marquer.
Oui.
D'accord. Plus le nul à la mi-temps.
Oui.
Je comprends mieux la cote élevée du coup.
Et oui, mais on est obligé, hein. Il tente faut tenter. Hein.
Ah non, mais très bien.
On est en fin de saison.
9 pour Karine, 50 pour Xavier.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Allez, dans quelques secondes, on revient sur les deux victoires de l'après-midi. Le Havre, Strasbourg, la victoire du Havre, 3 buts 1, et celle de Monaco, 4 buts 1, qui garantit face à Clermont une place en Ligue des Champions, au minimum au tour préliminaire, en tout cas dans le top 4 à l'AS Monaco. Clermont pourrait être directement concerné par la Ligue 2 si Metz venait à l'emporter contre Rennes, mais là on s'approche du temps additionnel et il y a toujours 2 buts partout. Ne bougez pas, RTL Foot revient.
RTL Foot. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL. Arnaud Touche. Une lettre d'Amérique.
Chaque mardi, je vous envoie une lettre d'Amérique et cette semaine, je vous emmène dans les salons de réception du consulat de France à New York pour parler gastronomie. 3 chefs français et une critique culinaire ont été décorés dans le plus grand salon face à Central Park. Pourquoi ces chefs ont-ils traversé l'Atlantique pour conquérir le palais des Américains? Mais aussi, comment le cassoulet est-il devenu un plat star ici à New York? Réponse dans cette nouvelle lettre d'Amérique.
Téléchargez dès maintenant une lettre d'Amérique sur l'appli RTL.
Mon rêve, c'est de devenir astronaute pour réparer la Terre si elle se casse. Dans mon rêve, j'ai visité un centre aéronautique. Ce rêve, c'était la semaine dernière.
L'association Petit Prince donne vie aux rêves des enfants malades. Vous êtes en Île-de-France et disponible 2 jours par semaine? Devenez bénévole. Envoyez votre candidature sur
petitprince.com.
Bonjour, c'est Christine Haas. Chaque jour au 32-10, je vous propose de retrouver votre horoscope. Vous pouvez également obtenir une consultation en direct. Ce dialogue vous permettra une analyse de votre thème astral afin de mieux comprendre ce que les astres vous réservent. Alors à très vite sur le 32-10.
50 centimes la minute, plus prix d'un appel.
RTL Foot.
Le replay.
Le replay, on va y venir dans quelques secondes. Monaco, Clermont, 4 buts à 1 pour Monaco. Le Havre, Strasbourg, 3 buts à 1 pour Le Havre. Mais d'abord, la fin de Metz-Rennes. Il y a 8 minutes de temps additionnel. Dimitri Hamelot, 2 buts partout.
Oui, on joue depuis 1 minute 40 dans ce temps additionnel et les Messins toujours de partout, effectivement. Les Messins qui viennent de se procurer un bon coup franc là avec Faïk Kandé qui a frappé. Ce coup de pied arrêté à 30 mètres, excentré très très à gauche. Quand on regardait les buts de Steve Mandanda, c'est maintenant un coup franc. Ça n'a rien donné. Un coup franc à suivre maintenant toujours pour les Messins et des altercations qui se poursuivent hein, parce que les Rennais temporisent dès qu'il y a un arrêt de jeu et les Messins qui veulent récupérer le ballon très rapidement pour jouer très vite. On rappelle quand même la fin de saison du FC Metz. Ils vont à Strasbourg dans un derby que les Strasbourgeois ne lâcheront pas, quand bien même ils n'ont plus grand chose à jouer dans le championnat de Ligue 1, et ils reçoivent le Paris Saint-Germain à la dernière journée de championnat. Autant dire que faire un résultat, arracher la victoire ce soir serait absolument fantastique. Les Rennais, la frappe, le but incroyable, le troisième but pour le Stade Rennais. Parti en contre, il est rentré dans la surface de réparation légèrement côté droit. Il a frappé un ballon aérien juste sous la transversale et il permet au Stade Rennais de mener 3 buts à 2. Et je crois que c'est Kali Mwendo, il faudra vérifier.
C'est lui.
Les Bretons qui viennent d'assommer le football club de Metz. C'est terrible pour les Lorrains. Il leur reste quelques minutes, 5 peut-être, 6. Allez, pour essayer de revenir dans ce match.
Il peut être annulé, Dimitri, ce but, parce qu'il y a une grosse faute rennaise au départ de l'action.
Ça ne discute pas du côté Messin.
Ah, pour moi, il y a une énorme faute rennaise au départ de l'action.
Écoutez, attendez, on revoit le ralenti. Il écarte bien sur le côté droit.
Non, mais le but est très beau. Il n'y a strictement rien à dire.
À quel moment la faute?
Au début de la récupération du ballon.
Parce que j'ai que la fin de l'action.
Matouziwa au départ qui récupère le ballon, mais qui laisse
le pied sur le flanc.
Qui s'essuie quand même bien le pied sur le pied. Sur le torse du joueur messin.
L'arbitre de Hardon n'a pas la main sur l'oreillette.
Non. Hop, voilà, ça y est, ça joue.
Et franchement, c'est hallucinant. Tu vois, là, c'est pour ça que c'est...
Non, ça joue, hein, mais il n'y a pas eu de doute, hein, je crois. Hein. Ouais, ou alors, on lui a dit dans l'oreillette, non, au bout de 4 secondes. Oh là, encore une altercation. Mikotadze, poitrine contre poitrine, là. Qui vient de rentrer dedans. Tu es un joueur rennais. Mais c'est pas possible de faire ça, même. Tu perds, d'accord. Mais là, tu vas mettre ton équipe en péril parce que si tu prends un carton rouge,
Julien Stéphane vient carrément sur la pelouse.
Bologna aussi. Ils sont tous sur la pelouse.
Eh oui, bien sûr qu'il prend le rouge, Mikotadze.
Attention.
Mais bien sûr qu'il a pris le rouge, Mikotadze. Et en plus, il a les deux derniers matchs à jouer. C'est l'homme providentiel du FC Metz.
C'est incroyable.
L'attitude de Kali Mwendo, elle est scandaleuse.
C'est incroyable de faire cette erreur. Là, les Messins qui sont en train de négocier avec l'arbitre. Oukidja qui est dans le lot, qui a quitté sa cage pour essayer de plaider la cause.
Ouais,
mais c'est fini.
C'est terminé.
Kali Mwendo, c'est une pleureuse.
C'est incroyable.
C'est scandaleux.
Il n'y a jamais rouge. Jamais.
Déjà, Kali Mwendo, sur son but, il est allé chambrer le public et les Messins. Et derrière, il fait une... Il se rapproche les deux, Dimitri, il se retrouve poitrine contre poitrine, un peu d'orgueil évidemment, Dimitri, mais il n'y a aucun geste de la part de Mikotadze.
Il n'y a pas de coude, il n'y a pas de bras, il n'y a rien du tout.
Quand tu as joué un peu au foot, le scénario du match est terrible pour les Messins. Tu prends un troisième but dans une période qui est tellement difficile. Mikotadze, ça chambre depuis tout à l'heure, ça chauffe depuis tout à l'heure, il s'approche simplement de lui, il va se rapprocher pour se mettre poitrine contre poitrine.
Mais quel scandale.
Et Kali Mwendo, il en rajoute des tonnes.
Je suis en train de voir l'image. Oh non, il n'y a rien.
Mais bien sûr,
mais
c'est un
scandale. C'est incroyable. De couleur blicheuse de Kali Mwendo, là.
Attendez, parce que l'arbitre a quand même la main sur l'oreillette.
Il faut retirer le carton rouge. Mikotadze, pour les deux derniers matchs de Metz, il ne peut pas être
sachant qu'il est déjà rentré dans le vestiaire.
Mais maintenant,
et là,
faut annuler,
l'arbitre
faut annuler le rouge.
C'est Rudy Bucquet. Voilà, ah, il va voir. Mais il va voir.
Merci, bien monsieur sûr. Bucquet.
Bien sûr.
Enfin, et merci,
il va voir.
Assistance vidéo. Et il pourrait sauver un peu son match, l'arbitre, hein, parce que ça. Pas pour moi, ça n'a pas été l'un de ses plus grands matchs ce soir.
Tu peux pas voilà, priver le SMS de Miko Tadze pour les deux derniers matchs, c'est pas possible.
Sachant. Non mais s'il a fait faute et que ça mérite rouge, tu peux
dire.
Là en l'occurrence, on est d'accord, il n'y a pas faute. Monsieur Bucquet est en train d'aller voir l'écran.
Plus,
voilà, il est devant l'écran.
Calimundo qui va taper rentrer. Sur Miko Tadze.
Ouais, bon, après Miko Tadze se rapproche
et
de lui.
Miko Tadze est déjà dans les vestiaires, je crois.
Miko Tadze fait quand même le geste de s'approcher de lui pour lui dire ce qu'il en pense, mais il ne fait aucun geste répréhensible.
De regarder. La décision va être prise dans quelques secondes. Il est toujours devant l'écran, Rudy Bucquet, et il prend énormément de temps.
On dit à Miko Tadze de revenir au bord du terrain au cas où.
Quelle histoire de dingue. Voilà.
C'est ça.
Ah non, il a maintenu son carton rouge.
Non, il a maintenu. Hein.
Mais c'est pas possible.
Ah, attendez, parce que Miko Tadze est en train de, de revenir effectivement au bord terrain. Mais
on a maintenu le carton rouge.
Non,
il a maintenu le carton rouge. Ouais, mais là, ça a des conséquences terribles pour la suite de la saison. Ah, reste deux matchs sans Miko Tadze, qui est le meilleur joueur de Metz.
Bien sûr.
Mais c'est scandaleux. Mais l'arbitrage français va se noyer jusqu'au bout.
Rudy Bucquet fait partie de nos arbitres les plus expérimentés. C'est un scandale.
Le VAR a fait son boulot.
Bien sûr, le VAR a fait son boulot. Lui, mais hallucinant. Comment est-ce qu'on peut être aussi.
C'est une folie.
Non, mais c'est pas possible.
Miko Tadze, il est arrêté.
Non mais le Miko Tadze vient quand même à la rencontre de Calimuendo pour lui dire ce qu'il pense
surtout,
de son attitude.
Mais surtout, on rappelle qu'il s'est déplacé pour aller voir l'image. Non. Donc c'est-à-dire que Rudy Bucquet est convaincu parce qu'il est directement lui-même allé voir l'image.
Écoutez, moi
donc
je lance un appel.
Il n'a pas eu la même lecture que vous et moi.
Je lance un appel sur l'antenne de RTL à la commission de discipline qui a rarement pris ses... Comment dire ?
Responsabilités.
Qui a rarement pris ses responsabilités. Là, il faut absolument que le carton rouge de Miko Tadze soit annulé par la commission de discipline et que le joueur puisse disputer avec le FC Metz les deux derniers matchs.
On rappelle, ils vont à Strasbourg dans le derby et ils reçoivent le Paris Saint-Germain.
On ne peut pas.
Donc la fin de saison, ça annonce quand même assez tendu pour cette équipe qui est en grande difficulté maintenant, puisqu'on le rappelle, ils sont menés 3-2 sur leur pelouse. Et alors au niveau du temps additionnel, je ne peux pas vous dire combien il en reste, peut-être 3 ou 4, parce qu'on
parle beaucoup de Metz avec tout ce qui s'est passé. Le maintien se joue là, mais Rennes, mine de rien, reprend la 7ème place provisoirement à Marseille avec 45 points. Les Rennais se replacent pour une éventuelle qualification pour une Coupe d'Europe. Si la 7ème place devenait qualificative avec soit la Coupe de France, soit Marseille en Ligue Europe. Fin de match extrêmement houleuse, on va siffler, je pense, Dimitri, très bientôt. Metz à 10, donc expulsion
Miko Tadze. Il en reste bien 2 ou 3, à mon avis. Hein.
Et Rennes, 3 buts à
2. Minutes quand même. Hein.
On va arriver jusqu'au coup d'envoi de Brest, hein, comme ça.
Je pense même qu'on va le rater.
Ah, tu crois ? Bon, tu interviens, Philippe, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est
on va garder les bons réflexes.
C'est extrêmement tendu quand même.
On va garder les bons
scénarios pour les Messins, c'est catastrophique.
X minutes après, ils annoncent un carton jaune pour Calimuendo, mais sur quoi ?
Alors peut-être pour le chambrage d'avant sur le but. Non mais alors l'attitude de Calimuendo, elle est détestable. Du but jusqu'à l'expulsion de Miko Tadze.
Mais c'est petit.
Garçon, écoute-moi bien. Sois humble, travaille devant le but.
Mais bien sûr,
il a mis un très joli but ce soir.
Très moyen.
Arrête de te prendre